Chapitre 10. Des animaux, venaisons, gros lézards, serpents et autres bêtes monstrueuses de l'Amérique. J'avertirai en un mot, au commencement de ce chapitre, que pour l'égard des animaux à quatre pieds, non seulement en général et sans exception, il ne s'en trouve pas un seul en cette terre du Brésil en Amérique qui en tout et partout soit semblable au nôtre, mais qu'aussi nos touyupinambous n'en nourrissent que bien rarement de domestiques. Pour donc décrire les bêtes sauvages de leur pays, lesquelles, quant au genre, sont nommées par eux « soho », je commencerai par celles qui sont bonnes à manger. La première et plus commune est une qu'ils appellent « tapiroussou », laquelle ayant le poil rougeâtre et assez long, est presque de la grandeur, grosseur et forme d'une vache. Toutefois, ne portant point de cornes, ayant le col plus court, les oreilles plus longues et pendantes, les jambes plus sèches et déliées, le pied non fendu mais de la propre forme de celui d'un âne, on peut dire que participant de l'un et de l'autre, elle est demi-vache et demi-âne. Néanmoins, elle diffère encore entièrement de tous les deux, tant de la queue qu'elle a fort courte, et notez en cet endroit qu'il se trouve beaucoup de bêtes en Amérique qui n'en ont point du tout, que des dents, laquelle elle a beaucoup plus tranchantes et aiguës. Cependant pour cela, n'ayant aucune résistance que la fuite, elle n'est nullement dangereuse. Les sauvages la tuent, comme plusieurs autres, à coups de flèches, ou la prennent à des chausse-trappes et autres engins qu'ils font assez industrieusement. Au reste, cet animal, à cause de sa peau, est merveilleusement estimé d'eux, car quand ils l'écorchent, coupant en rond tout le cuir du dos, après qu'il est bien sec, ils en font des rondelles aussi grandes que le fond d'un moyen tonneau, lesquelles leur servent à soutenir les coups de flèche de leurs ennemis quand ils vont en guerre. Et de fait, cette peau ainsi séchée et accoutrée est si dure que je ne crois pas qu'il y ait flèche, tant rudement décochée fut-elle qu'il a su percer. Je rapportais en France par singularité deux de ces targes, mais quand à notre retour la famine nous prit sur mer, après que tous nos vivres furent faillis et que les guenons, perroquets et autres animaux que nous apportions de ce pays-là nous eurent servi de nourriture, encore nous fallut-il manger nos rondelles grillées sur les charbons, voire, comme je dirais en son lieu, tous les autres cuirs et toutes les peaux que nous avions dans notre vaisseau. Touchant la chair de ce tapiroussou, elle a presque le même goût que celle du bœuf, mais quant à la façon de la cuire et apprêter, nos sauvages, à leur mode, la font ordinairement boucaner. Et parce que j'ai déjà touché ci-devant, et faudra encore que je réitère souvent ci-après cette façon de parler boucaner, afin de ne tenir plus le lecteur en suspense, tout aussi que l'occasion se présente ici maintenant bien à propos, je veux déclarer quelle en est la manière. Nos Américains, donc, fichant assez avant dans terre quatre fourches de bois aussi grosses que le bras, distant en carré d'environ 3 pieds et également haute élevée de 2,5, mettant sur icelle des bâtons à travers, à 1 pouce ou 2 doigts près l'un de l'autre, font de cette façon une grande grille de bois, laquelle, en leur langage, ils appellent « boucan ». Tellement qu'en ayant plusieurs plantées en leur maison, ceux d'entre eux qui ont de la chair, la mettant dessus par pièces et avec du bois bien sec qui ne rend pas beaucoup de fumée, faisant un petit feu lent dessous, en la tournant et retournant de demi-quart en demi-quart d'heure, la laissent ainsi cuire autant de temps qu'il leur plaît. Et même, parce que ne salant pas leur viande pour les garder comme nous faisons par de ça, ils n'ont autre moyen de les conserver, sinon les faire cuire. S'ils avaient pris en un jour 30 bêtes fauves ou autres telles que nous les décrirons en ce chapitre, afin d'éviter qu'elles ne s'empuantissent, elles seront incontinent toutes mises par pièces sur le boucan, de manière qu'ainsi que j'ai dit, les virant et revirant souvent sur icelui, ils les y laisseront quelquefois plus de 24 heures, et jusqu'à ce que le milieu et tout auprès des eaux soit aussi cuit que le dehors. Ainsi font-ils des poissons, desquels même quand ils ont grande quantité, et nommément de ceux qu'ils appellent piraparati, qui sont francs millets dont je parlerai encore ailleurs, après qu'ils sont bien secs, ils en font de la farine. Bref, ces boucans, leur servant de saloir, de crochet et de garde-manger, vous n'iriez guère en leur village que vous ne les vissiez garnir non seulement de venaisons ou de poissons, mais aussi le plus souvent, comme nous verrons ci-après, vous les trouveriez couverts tant de cuisses, bras, jambes qu'autres grosses pièces de chair humaine des prisonniers de guerre qu'ils tuent et mangent ordinairement. Voilà quant aux boucans et boucaneries, c'est-à-dire rôtisseries de nos Américains, lesquels au reste, sauf la révérence de celui qui a autrement écrit, ne laissent pas, quand il leur plaît, de faire bouillir leur viande. Or, afin de poursuivre la description de leurs animaux, les plus gros qu'ils aient après l'âne vache dont nous venons de parler, sont certaines espèces, voirement de cerfs et de biches, qu'ils appellent séwassous. Mais outre qu'il s'en faut de beaucoup, qu'ils soient si grands que les nôtres, et que leurs cornes aussi soient sans comparaison plus petites, encore diffèrent-ils en deçà qu'ils ont le poil aussi grand que celui des chèvres de Pardessa. Quant aux sangliers de ce pays-là, lequel les sauvages nomment taillassous, combien qu'il soit de forme semblable à ceux de nos forêts, et qu'il ait ainsi le corps, la tête, les oreilles, jambes et pieds, même aussi les dents fort longues, crochues, pointues et par conséquent très dangereuses, Tantilla, qu'outre qu'il est beaucoup plus maigre et décharné, et qu'il a son grognement et cri effroyable, encore a-t-il une autre difformité étrange, à savoir naturellement un pertuis sur le dos, par où, ainsi que j'ai dit que le marsouin a sur la tête, il souffle, respire et prend vent quand il veut. Et afin qu'on ne trouve cela si étrange, celui qui a écrit l'Histoire générale des Indes dit qu'il y a aussi, au pays de Nicaragua, près du royaume de la Nouvelle-Espagne, des porcs qui ont le nombril sur l'échine, qui sont pour certains de la même espèce que ceux que je viens de décrire. Les trois susdits animaux, à savoir le tapiroussou, le séwassou et le taillassou, sont les plus gros de cette terre du Brésil. Passant donc outre aux autres sauvagines de nos Américains, ils ont une bête rousse qu'ils nomment agouti, de la grandeur d'un cochon d'un mois, laquelle a le pied fourchu, la queue fort courte, le museau et les oreilles, presque celles d'un lièvre, et fort bonne à manger. D'autres, de deux ou trois espèces, qu'ils appellent tapiti, tous assez semblables à nos lièvres, et quasi de même goût, mais quant au poil, ils l'ont plus rougeâtre. Ils prennent semblablement par les bois certains rats, gros comme écureuils et presque de même poil roux, lesquels ont la chair aussi délicate que conil de garenne. Pag, ou pagu, car on ne peut pas bien discerner lequel des deux il profère, est un animal de la grandeur d'un moyen chien braque, à la tête bizarre et fort mal faite, la chair presque de même goût que celle de veau, quant à sa peau étant fort belle et tachetée de blanc, gris et noir, si on en avait part de ça, elle serait fort riche et bien estimée en fourrure. Il s'en voit un autre, de la forme d'un putois, et de poils ainsi grisâtres, lequel les sauvages nomment sarigua, mais parce qu'il pue aussi, eux n'en mangent pas volontiers. Toutefois, nous autres, en ayant écorché quelques-uns, et connu que c'était seulement la graisse qu'ils ont sur le rognon qui leur rend cette mauvaise odeur, après leur avoir ôté, nous ne laissions pas d'en manger, et de fait la chair en est tendre et bonne. Quant au tatou de notre terre du Brésil, cet animal, comme les hérissons par-deçà, sans pouvoir courir si vite que plusieurs autres, se traîne ordinairement par les buissons. Mais en récompense, il est tellement armé et tout couvert d'écailles si fortes et si dures, que je ne crois pas qu'un coup d'épée lui fuit rien. Et même quand il est écorché, les écailles, jouant et se maniant avec la peau de laquelle les sauvages font des petits cousins qu'ils appellent caramémo, vous diriez, la voyant plier, que c'est un gantelet d'armes. La chair en est blanche et d'assez bonne saveur. Mais quant à sa forme, qu'il soit si haut monté sur ses quatre jambes, que celui que Belon a représenté par portrait à la fin du troisième livre de ses observations, lequel toutefois il nomme Tatou du Brésil, je n'en ai point vu de semblable en ce pays-là. Or, outre tous les susdits animaux qui sont les plus communs pour le vivre de nos Américains, encore mange-t-il des crocodiles, qu'il nomme yacaré, gros comme la cuisse de l'homme, et longs à l'avenant. Mais tant s'en faut qu'il soit dangereux, qu'au contraire j'ai vu plusieurs fois les sauvages en rapporter tous en vie en leur maison, à l'entour desquels leurs petits-enfants se jouaient, sans qu'ils leur fissent nul mal. Néanmoins, j'ai ouï dire aux vieillards qu'allant par pays, ils sont quelquefois assaillis et ont fort à faire de se défendre à grands coups de flèche contre une sorte de yacaré, grands et monstrueux, lequel, les apercevant et sentant venir de loin, sortent d'entre les roseaux des lieux aquatiques où ils font leur repère. Et à ce propos, outre ce que Pline et autres récitent de ceux du Nil en Égypte, celui qui a écrit l'histoire générale des Indes dit qu'on a tué des crocodiles en ces pays-là, près la ville de Panama, qui avait plus de 100 pieds de long, qui est une chose presque incroyable. J'ai remarqué en ces moyens que j'ai vus qu'ils ont la gueule fort fendue, les cuisses hautes, la queue non ronde ni pointue, mais plate et défilée par le bout. Mais il faut que je confesse que je n'ai point bien pris garde si, ainsi qu'on tient communément, il remue la mâchoire de dessus. Nos Américains, au surplus, prennent des lézards, qu'ils appellent touyous, non pas verts ainsi que sont les nôtres, mais gris, et ayant la police comme nos petits lézards. Mais quoiqu'ils soient longs de 4 à 5 pieds, gros de même et de forme hideuse à voir, tant il y a néanmoins que se tenant ordinairement sur les rivages des fleuves et lieux marécageux comme les grenouilles, aussi ne sont-ils non plus dangereux. Et dirai plus qu'étant écorchés, étripés, nettoyés et bien cuits, la chair en étant aussi blanche, délicate, tendre et savoureuse que le blanc d'un chapon, c'est l'une des bonnes viandes que j'ai mangées en Amérique. Vrai que du commencement j'avais cela en horreur, mais après que j'en eus tâté, en matière de viande, je ne chantais que de lézards. Semblablement, nos touyoupinambous ont certains gros crapauds, lesquels, boucanés avec leur peau, les tripes et les boyaux leur servent de nourriture. Partant, attendu que nos médecins enseignent et que chacun tient aussi par deçà que la chair, sang et généralement le tout du crapaud est mortel, sans que je dise autre chose de ceux de cette terre du Brésil que ce que j'en viens de toucher, le lecteur pourra de là aisément recueillir qu'à cause de la température du pays, ou peut-être pour une autre raison que j'ignore, ils ne sont vilains, venimeux ni dangereux comme les nôtres. Ils mangent au semblable des serpents, gros comme le bras et longs d'une aune de Paris, et même j'ai vu les sauvages entraîner et apporter, comme j'ai dit qu'ils font des crocodiles, d'une sorte de riolet de noir et de rouge, lesquels encore tous en vie ils jetaient au milieu de leur maison parmi les femmes et enfants, qui, au lieu d'en avoir peur, les maniaient à pleine main. Ils apprêtent et font cuire par tronçons ces grosses anguilles terrestres. Mais pour en dire ce que j'en sais, c'est une viande fort fade et douceâtre. Ce n'est pas qu'il n'ait d'autres sortes de serpents, et principalement dans les rivières où il s'en trouve de longs et déliés, aussi verts que porés, la piqûre desquels est fort venimeuse. Mais aussi par le récit suivant, vous pourrez entendre, qu'outre ces touyous dont j'ai tantôt parlé, il se trouve par les bois une espèce d'autres gros lézards qui sont très dangereux. Comme donc deux autres Français et moi fîmes un jour cette faute de nous mettre en chemin pour visiter le pays sans selon la coutume avoir des sauvages pour guides, nous étant égarés par les bois, ainsi que nous allions le long d'une profonde vallée, entendant le bruit et le trac d'une bête qui venait à nous, pensant que ce fût quelque sauvage, sans nous en soucier ni laisser d'aller, nous n'en fîmes pas autre cas. Mais tout un continent à dextre et à environ 30 pas de nous, voyant sur le coteau un lézard beaucoup plus gros que le corps d'un homme et long de 6 à 7 pieds, lequel paraissant recouvert d'écailles blanchâtres, âpres et raboteuses comme coquilles d'huîtres, l'un des pieds devant levé, la tête haussée et les yeux étincelants, s'arrêta tout court pour nous regarder. Ce que voyant et n'ayant lors pas un seul de nous arquebuse ni pistolet, mais seulement nos épées et à la manière des sauvages, chacun l'arc et les flèches en la main, armes qui ne nous pouvaient pas beaucoup servir contre ce furieux animal si bien armé, craignant néanmoins si nous nous enfuyions qu'il ne nous courût plus fort que nous et que nous ayant attrapé, il ne nous engloutit et dévora, fort étonnés que nous fûmes en nous regardant l'un l'autre, nous demeurâmes ainsi tout quoi en une place. Ainsi, après que ce monstrueux et épouvantable lézard, en ouvrant la gueule, et à cause de la grande chaleur qu'il faisait, car le soleil luisait et était l'heure environ midi, soufflant si fort que nous l'entendions bien aisément, nous eût contemplé près d'un quart d'heure, se retournant tout à coup, et faisant plus grand bruit et fracassement de feuilles et de branches par où il passait que ne ferait un cerf courant dans une forêt, il s'enfuit contre Mont. Partant, nous qui, ayant eu l'une de nos peurs, n'avions garde de courir après, en louant Dieu qui nous avait délivrés de ce danger, nous passâmes outre. J'ai pensé depuis, suivant l'opinion de ceux qui disent que le lézard se délecte à la face de l'homme, que celui-là avait pris aussi grand plaisir de nous regarder que nous avions eu peur à le contempler. Outre plus, il y a en ce pays-là une bête ravissante que les sauvages nomment Yanwaré, laquelle est presque aussi haute en jambes et légère à courir qu'un lévrier, mais comme elle a de grands poils alentour du menton, et la peau fort belle et bigarrée comme celle d'une once, aussi en tout le reste lui ressemble-t-elle bien fort. Les sauvages, non sans cause, craignent merveilleusement cette bête, car vivant de proie, comme le lion, si elle les peut attraper, elle ne faut point de les tuer, puis les déchirer par pièces et les manger. Et de leur côté aussi, comme ils sont cruels et vindicatifs contre toute chose qui leur nuit, quand ils en peuvent prendre quelques-unes aux choses trappes, ce qu'ils font souvent, ne leur pouvant pis faire, ils les dardent et meurtrissent à coups de flèches, et les font ainsi longuement languir dans les fosses où elles sont tombées, avant que les achever de tuer. Et afin qu'on entende mieux comment cette bête les accoutre, un jour que 5 ou 6 autres Françaises et moi nous passions par la grande île, les sauvages du lieu nous avertissant que nous nous donnassions garde de Yanwaré nous dirent qu'il avait cette semaine-là mangé 3 personnes en l'un de leurs villages. Au surplus, il y a grande abondance de ces petites guenons noires que les sauvages nomment Kai en cette terre du Brésil. Mais parce qu'ils s'en voient assez par de ça, je n'en ferai ici autre description. Bien dirais-je toutefois qu'étant par les bois en ce pays-là, leur naturel étant tel de ne bouger guère de dessus certains arbres qui portent un fruit ayant gousse presque comme nos grosses fèves de quoi elles se nourrissent, s'y assemblant ordinairement par troupes, et principalement en temps de pluie, ainsi que font quelquefois les chats sur les toits par de ça, c'est un plaisir de les ouïr crier et mener leur sabbat sur ces arbres. Au reste, cet animal, n'en portant qu'un d'une ventrée, le petit a cette industrie de nature que sitôt qu'il est hors du ventre, embrassant et tenant ferme le col du père ou de la mère, s'il se voit poursuivi des chasseurs, sautant de branche en branche, ils le sauvent en cette façon. Tellement qu'à cause de cela, les sauvages n'en pouvant aisément prendre ni jeunes ni vieilles, ils n'ont autre moyen de les avoir, sinon qu'à coups de flèche ou de matéra les abattre de dessus les arbres. D'où tombant étourdis et quelquefois bien blessés, après qu'ils les ont guéris et un peu apprivoisés en leur maison, ils les changent à quelques marchandises avec les étrangers qui voyagent par-delà. Je dis nommément apprivoisés, car du commencement que ces guenons sont prises, elles sont si farouches que mordant les doigts, voire transperçant de part en part avec les dents les mains de ceux qui les tiennent, de la douleur qu'on sent, on est contraint à tout coup de les assommer pour leur faire lâcher prise. Il se trouve aussi en cette terre du Brésil un marmot que les sauvages appellent sagouin, non plus gros qu'un écureuil et de semblable poil roux. Mais quant à sa figure, ayant le mufle, le col et le devant et presque tout le reste ainsi que le lion, fier qu'il est de même, c'est le plus joli petit animal que j'ai vu par-delà. Et de fait, s'il était aussi aisé à repasser la mer qu'est la guenon, il serait beaucoup plus estimé. Mais outre qu'il est si délicat qu'il ne peut supporter le branlement du navire sur mer, encore est-il si glorieux que pour peu de fâcherie qu'on lui fasse, il se laisse mourir de dépit. Cependant, il s'en voit quelques-uns par de ça, et croit que c'est de cette bête de quoi Marot fait mention, quand introduisant son serviteur Fripelipes parlant à un nommé Sagon, qui l'avait blâmé, il dit ainsi « Combien que Sagon soit un mot, et le nom d'un petit marmot. » Or, combien que je confesse nonobstant ma curiosité n'avoir point si bien remarqué tous les animaux de cette terre d'Amérique que je désirerais, si est-ce néanmoins, que pour y mettre fin, j'en veux encore décrire deux, lesquels, sur tous les autres, sont de forme étrange et bizarre. Le plus gros, que les sauvages appellent haï, est de la grandeur d'un gros chien barbé, et à la face ainsi que la guenon, approchante de celle de l'homme, le ventre pendant comme celui d'une truie pleine de cochons, le poil gris enfumé ainsi que la laine de mouton noir, la queue fort courte, les jambes velues comme celles d'un ours, et les griffes fort longues. Et quoique quand il est par les bois, il soit fort farouche, Tantillac étant pris, il n'est pas malaisé à apprivoiser. Vrai est qu'à cause de ses griffes, nos touillou-pinambous, toujours nus qu'ils sont, ne prennent pas grand plaisir de se jouer avec lui. Mais au demeurant, chose qui semblera possible fabuleuse, j'ai entendu non seulement des sauvages, mais aussi des truchements qui avaient demeuré longtemps en ce pays-là, que jamais homme, ni par les champs, ni à la maison, ne vit manger cet animal. Tellement qu'aucun estime qu'il vit du vent. L'autre dont je veux aussi parler, lequel les sauvages nomment Wati, est de la hauteur d'un grand lièvre, a le poil court, poli et tacheté, les oreilles petites, droites et pointues, mais quant à la tête, outre qu'elle n'est guère grosse, ayant depuis les yeux un groin long de plus d'un pied, rond comme un bâton, et s'étrécissant tout à coup, sans qu'il soit plus gros par le haut qu'auprès de la bouche, laquelle aussi il a si petite qu'à peine y mettrait-on le bout du petit doigt, ce museau, dis-je, ressemblant le bourdon ou le chalumeau d'une cornemuse, il n'est pas possible d'en voir un plus bizarre ni de plus monstrueuse façon. Davantage parce que, quand cette bête est prise, elle se tient les quatre pieds serrés ensemble, et par ce moyen penche toujours d'un côté ou d'autre, ou se laisse tomber tout à plat, on ne la saurait faire tenir debout ni manger, si ce n'est quelques fourmis, de quoi aussi elle vit ordinairement par les bois. Environ 8 mois après que nous fûmes arrivés en l'île où se tenait Villegagnon, les sauvages nous apportèrent un de ces coatis, lequel à cause de la nouveauté fut autant admiré d'un chacun de nous que vous pouvez penser. Et de fait, comme j'ai dit, étant étrangement défectueux eu égard à ceux de notre Europe, j'ai souvent prié un nommé Jean Gardien de notre compagnie, expert en l'art de portraire, de contrefaire tant celui-là que beaucoup d'autres, non seulement rares, mais aussi du tout incongrus par de ça, à quoi néanmoins, à mon bien grand regret, il ne se voulut jamais adonner.